Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر Allahi qarib. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 14 novembre 2022. Dans quelques instants, je vais vous présenter le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le CGRI a visé les positions des terroristes anti-Iran dans le nord de l'Irak. Une Palestinienne a succombé à sa blessure après avoir été touchée par des balles israéliennes. Et le Mali et le Burkina Faso veulent renforcer leur collaboration militaire contre le terrorisme. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a une nouvelle fois visé les positions des groupes terroristes opérant dans la région semi-autonome du Kurdistan irakien, près des frontières occidentales de l'Iran. L'armée de terre du CGRI a tiré des roquettes sur les positions des groupes terroristes. Des armes de précision et des drones ont également été utilisés, selon un rapport publié par l'agence de presse Fars News. Entre-temps, le commandant de la base Hamza Sayed al-Shohada du CGRI a annoncé l'arrestation de plus de 100 éléments des groupes séparatistes et terroristes, dont le soi-disant parti Komala et le parti démocratique du Kurdistan irakien PDKI, qui ont contribué au déclenchement des récentes émeutes en Iran. Le général de brigade Mohammad Tari Osanlou a déclaré que les frontières du nord-ouest de l'Iran sont en règle générale sécurisées. Néanmoins, l'ennemi a réussi à faire passer des armes aux mains des émeutiers en Iran. Les groupes terroristes anti-iraniens en Irak sont considérés comme une menace pour la sécurité de toutes les régions. Nous avons eu des discussions avec des responsables du gouvernement de Bagdad et du gouvernement régional du Kurdistan à ce sujet, a déclaré le général. L'Iran a averti à maintes reprises des autorités locales du Kurdistan irakien qu'il ne tolérait pas la présence et l'activité des groupes terroristes le long de ses frontières nord-ouest, affirmant que le pays donnerait une réponse décisive si ces régions devenaient le foyer des terroristes anti-Iran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné dans un communiqué l'attentat terroriste qui a eu lieu dans l'après-midi du dimanche 13 novembre au cœur d'Istanbul et a fait des dizaines de morts et de blessés. Nous condamnons fermement toute attaque terroriste ayant visé la sécurité de la Turquie et de sa nation, a déclaré dimanche le porte-parole de la diplomatie iranienne Nasser Kanani. Nous nous tenons aux côtés du gouvernement et du peuple, amis et frères, de la Turquie, a-t-il réaffirmé, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés de cet attentat terroriste. Une forte explosion est survenue dimanche 13 novembre à Istanbul, dans la très célèbre rue commerçante d'Istiklal, près de la place Taksim, en plein centre-ville. Selon un dernier bilan, 6 personnes ont été tuées et au moins 81 autres blessées, dont 2 se trouvent dans un état critique. La ministre de la Famille et des Affaires sociales, Derya Yanik, a écrit dans un tweet qu'un employé du ministère et sa jeune fille figuraient parmi les victimes. Pour l'heure, aucun groupe n'a revendiqué l'attentat. le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé à la télévision locale un vil attentat, confirmant le nombre de morts et de blessés. Les premières observations laissent suborder un attentat terroriste, a-t-il fait savoir, informant qu'une femme y serait impliquée. Son vice-président, Fuat Oktay, a lui aussi accusé une femme d'avoir déclenché une bombe. Une Palestinienne a succombé à ses blessures après avoir été touchée par des balles de l'armée israélienne à Ramallah. Les forces israéliennes ont tiré ce lundi matin, 14 novembre, sur une voiture dans la région de Beitounia. Deux Palestiniens ont été grièvement blessés, dont une femme qui a succombé à ses blessures un peu plus tard, selon les médias palestiniens. La semaine dernière, un Palestinien de 29 ans, nommé Rafat Ali Abdullah Issa, de la ville de Sanour, près de Jenin en Cisjordanie, a également été tué par les forces israéliennes. Ce lundi matin, des soldats israéliens ont procédé à la destruction de trois habitations dans le village d'Alminia, au sud-est de Bethléem, au sud de Rots occupée en Cisjordanie. Zayed al-Kawazba, le maire du village, a déclaré qu'un important convoi militaire comprenant des bulldozers blindés avait envahi le village aux premières heures de la matinée. Le dossier controversé des migrants engageant la France et l'Italie fait couler beaucoup d'encre. Les deux pays s'accusent mutuellement et refusent de reconnaître leurs responsabilités dans la gestion de l'affaire. Après les déclarations du ministre français de l'Intérieur, Gérard Darmanin, qui avait dénoncé le comportement du gouvernement italien, c'est au tour de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, de s'y coller. Le 12 novembre, la chef de la diplomatie française est revenue lors d'une interview avec Le Parisien sur la gestion européenne de la crise migratoire. Elle dénonce avant tout le manque d'humanité de l'Italie. Compte tenu du refus obstiné et du manque d'humanité de l'Italie, nous avons accueilli exceptionnellement le navire, explique-t-elle en évoquant une très forte déception sur le fond. Il y aura des conséquences si l'Italie persiste dans cette attitude. De notre côté, nous avons suspendu le dispositif de relocalisation de migrants provenant d'Italie et renforcé les contrôles aux frontières franco-italiennes. Il faut rappeler Rome à son devoir d'humanité, en espérant qu'elle comprenne le message d'État et la ministre, cité par le journal du dimanche. Côté italien, la chef du gouvernement, Giorgia Meloni, plaide pour une solution européenne. J'ai été très marqué par la réaction agressive du gouvernement français, qui est incompréhensible et injustifiée, a-t-elle déclaré devant la presse. Paris a en effet annoncé des mesures de rétorsion envers Rome, qui a refusé de faire accoster un navire transportant des migrants, contraignant la France à l'accueillir. Certes, la crise des migrants demande une collaboration collective européenne. La spécialiste des questions de migration du CNRS, Virginie Guiraudon, l'a d'ailleurs affirmé implicitement vendredi 11 novembre devant la presse. En fait, il s'agit plus de mettre en œuvre une décision européenne déjà prise, a-t-elle souligné, rappelant qu'un mécanisme de solidarité européen a été adopté en juin. Ce mécanisme prévoit qu'une douzaine d'États, dont la France, accueille de manière volontaire 8 000 migrants arrivés dans des pays dits de première ligne, comme l'Italie. Mais seuls 117 migrants ont été relocalisés à ce jour, suscitant la colère de Rome. Or, face à cette gestion migratoire, l'Italie, avec Chypre, Malte et la Grèce, demande une intervention de la Commission européenne. Ces pays, les plus exposés avec l'Espagne à l'arrivée de migrants, plaident depuis des années en faveur d'un système de relocalisation obligatoire. Dans une déclaration conjointe publiée à Rome, les ministres de l'Intérieur d'Italie, de Malte et de Chypre, ainsi que le ministre des Migrations grecques, ont dénoncé l'idée que les pays de première entrée puissent être les seuls points de débarquement européens possibles pour les immigrés illégaux et ont pointé du doigt les ONG humanitaires, dont les navires privés agissent en totale autonomie par rapport aux autorités d'État compétentes. Le Burkina Faso et le Mali, qui partagent une longue frontière, vont mutualiser leurs efforts et leurs moyens afin de faire face au terrorisme, a déclaré le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, à l'issue d'une visite de travail d'une journée à Ouagadougou, vendredi 11 novembre, a-t-on appris de sources officielles. Le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, qui étaient accompagnés du chef d'état-major général des armées et de plusieurs officiers maliens, a souligné qu'il était porteur d'un message de fraternité du président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, à son frère, le capitaine Ibrahim Traoré. Ces deux pays sahéliens d'Afrique de l'Ouest partagent une frontière longue de 1200 km et sont confrontés à une recrudescence des attaques terroristes depuis 2012 pour le Mali et 2015 pour le Burkina Faso. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les démocrates conservent le contrôle du Sénat avec la victoire au Nevada. Les démocrates américains ont sauvé leur majorité au Sénat après que la sénatrice Catherine Cortez Masto a été réélue au Nevada. Les républicains, cependant, sont restés sur le point de prendre le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis alors que les responsables dans certains États ont continué de compter les bulletins de vote lors des élections de mi-mandat 2022. Avec la victoire de Masto au Nevada, samedi 12 novembre, sur son challenger républicain Adam Laxalt, qui avait été soutenu par l'ancien président Donald Trump, la Géorgie est le seul État où les deux partis sont toujours en compétition pour un siège au Sénat. La course en Géorgie devrait se terminer le 6 décembre, mais même si les républicains y gagnent, une répartition 50-50 des sièges signifierait que le Sénat serait effectivement contrôlé par les démocrates. D'ailleurs, si le sénateur démocrate Raphaël Warnock remporte le second tour des élections en Géorgie contre le challenger républicain Herschel Walker, cela porterait la majorité des démocrates à 51 contre 49 pour les républicains. Cela, à son tour, donnerait aux démocrates un avantage supplémentaire en adoptant un nombre limité de projets de loi controversés qui sont autorisés à être adoptés à la majorité simple au lieu des 60 voix requises pour la plupart des lois. Cependant, la Chambre des représentants penche vers le Parti républicain alors que les responsables continuent de compter les bulletins de vote. Un total de 218 sièges est nécessaire pour obtenir la majorité au corps législatif qui compte 435 sièges. Selon le rapport de CNN concernant les derniers résultats de la course au siège à la Chambre des représentants, les républicains sont en tête jusqu'à ce moment-là avec 211 sièges contre 204 sièges détenus par les démocrates. Les élections de mi-mandat du 8 novembre délivrent traditionnellement un rejet du parti au pouvoir et avec la flambée de l'inflation et la popularité de Biden dans le marasme, les républicains s'attendaient à surfer sur une puissante vague rouge et à gagner la majorité à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants. Cependant, la vague n'est jamais allée bien au-delà d'une ondulation. Le fait que les républicains perdent le Sénat soulève des questions sur l'emprise continue de Trump sur le Parti républicain, notamment après avoir soutenu des candidats de droite dans plusieurs circonscriptions clés qui ont perdu comme Mehmet Oz en Pennsylvanie. Des brèches politiques se sont ouvertes, certaines personnalités républicaines éminentes appelant ouvertement Trump à ne pas annoncer sa candidature en 2024, qu'il devrait annoncer pourtant le 15 novembre.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet, l'influence du BRICS dans le monde, la volonté des pays étrangers de se joindre à cette organisation, notamment l'Algérie, mais pas que. Notre reportage, comme vous le savez, suit par la suite nos invités. Donc, pour l'instant, je vous propose donc de regarder notre reportage qui constitue en fait un reportage sur l'Algérie, son adhésion volontaire au BRICS.
L'Algérie fait un pas vers l'adhésion au BRICS. Fin août, le Sénat brésilien a ratifié un accord de coopération en matière de défense avec l'Algérie signé en 2018. Cette collaboration permettra l'échange d'informations entre les deux pays, ainsi que la formation de personnel et l'acquisition d'armes, d'équipements militaires et de systèmes d'armes. En établissant des relations avec les BRICS, dont le Brésil fait partie, l'Algérie tente également de se séparer de l'hégémonie occidentale, a déclaré à Espatnik le spécialiste de la défense Danilo Bragança de l'Université fédérale de Fluminense. Il s'agit notamment des pays européens ayant accès à la Méditerranée, la France, l'Espagne et l'Italie, dont l'héritage s'est matérialisé par la colonisation brutale qui a conduit à la guerre d'Algérie, a expliqué Bragança. Pour le pays d'Amérique latine, il s'agit également d'un accord important qui permet au Brésil d'entrer dans une région stratégiquement importante, la Méditerranée, l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud. L'expert estime que l'expansion du réseau des BRICS reflète la transformation de son format. Ce groupe de 5 pays devient une coalition qui se positionne comme une alliance mondiale de plus grande envergure. Le fait que l'Algérie veuille rejoindre les BRICS montre que ce pays commence à s'éloigner de l'Europe en renforçant ses relations avec la Chine, le Brésil et l'Inde. Les principaux enjeux des prochaines années pour la diplomatie algérienne sont l'expansion des BRICS, le déplacement du centre de la diplomatie nord-africaine et même du continent africain dans son ensemble vers des blocs plus proches de la Chine et du Brésil, résume Bragança. L'ambassadeur de Russie en Algérie, Valérian Chuvaev, a déclaré que Moscou ne s'opposait pas à la volonté de l'Algérie de rejoindre le groupe des BRICS, rapporte le jeudi 8 septembre le quotidien arabophone El Khabar. Alors que la diplomatie algérienne tente d'établir de nouveaux partenariats en rejoignant les BRICS, la Russie a donné son feu vert dans cette affaire, en annonçant qu'elle ne s'oppose pas à cette mesure algérienne. La Russie n'a aucune objection à la volonté de l'Algérie de rejoindre le groupe des BRICS. Le président Tebboune a écrit au président Poutine à ce sujet, a déclaré le diplomate. La visite du président Tebboune en Russie avant la fin de l'année fait l'objet actuellement de discussions préliminaires. Les médias russes ont révélé que des événements importants attendent les relations bilatérales entre les deux pays jusqu'à la fin de l'année. Les deux pays cherchent à élargir les domaines de la coopération civile bilatérale et travaillent dur pour renforcer le partenariat dans le domaine de l'énergie, des mines, de l'industrie et de la recherche scientifique, selon les mêmes sources. Le président Abdelmadjid Tebboune avait précédemment déclaré que l'Algérie était prête à rejoindre l'organisation BRICS. Les BRICS sont une organisation économique internationale comprennent aujourd'hui la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde et la République d'Afrique du Sud.
Nous revoilà sur le plateau, donc nous allons accueillir nos deux invités. Premier invité, Monsieur Luc Michel, géopoliticien. Bonjour Monsieur Luc Michel. Le son ne passe pas. Notre deuxième invité étant Monsieur Fabrice Beurre, expert de l'ONG EODE. Bonjour Monsieur Beurre.
Bonjour.
Ravi de vous avoir sur nos plateaux. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous avez rejoint? J'entends rien. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, en fait, constitue le sujet des BRICS, pas forcément seulement sur l'Algérie, parce qu'il y a énormément de pays en ce moment qui souhaitent adhérer aux BRICS. Quelle est votre opinion? Pourquoi les pays s'intéressent à une autre organisation internationale? Pourquoi ils se désintéressent des autres organisations déjà préexistantes? Qu'en pensez-vous, Monsieur Fabrice Beurre?
Excusez-moi, j'ai pas entendu votre question.
Donc je demandais en fait comment vous expliquez en fait cet intérêt de différents pays internationaux à s'intéresser à une organisation comme les BRICS.
On est tout simplement dans le changement géopolitique du monde, à savoir que nous avions jusqu'à présent un équilibre qui datait en réalité des accords de Yalta, et suite à la chute de l'URSS, c'est les États-Unis qui menaient, allons dire, le monde. Et cette omniprésence et omnipotence nord-américaine, occidentalo-américaine, aujourd'hui prend fin. Et les BRICS sont le groupe qui, aux yeux du monde et de plus en plus de pays, sont un des éléments, une des alternatives, une sorte de pas de contre-G7, parce qu'il ne s'agit pas de s'opposer, il s'agit simplement de construire un autre monde, puisqu'on refuse le monde unipolaire américain, et de construire un autre monde dans d'autres relations de par le monde. Et les BRICS sont l'élément le plus intéressant parce qu'il n'y a pas de ligne directrice imposée au reste et qu'il faut être garde à vous. C'est vraiment une organisation informelle jusqu'à présent et qui devient de plus en plus formelle. Des pays... pourrait-on dire non aligné, mais moi je dirais que c'est l'union du bloc de l'Est, du bloc eurasien, avec, on va appeler ça d'une manière simplifiée, le bloc du Sud face au monde occidental. Mais comme je l'ai dit, toujours pas en opposition, simple, c'est le monde occidental qui se met en opposition à ce qu'il considère comme des concurrents, alors que les BRICS sont en fait une autre façon de pouvoir développer les relations internationales et de choisir le développement, ses partenaires, quel que soit le domaine, militaire, économique, financier et culturel. Et en cela, les BRICS, c'est l'alternative à l'unilatéralisme et le monde unipolaire américain. Et que celui-ci s'ouvre à d'autres pays, c'est tout à fait logique. Et c'est tout à fait d'ailleurs dans la demande autant de la Chine et tout particulièrement de la Russie, qui depuis plusieurs années cherche de par le monde des partenaires pour différents projets de coopération en dehors de ce monde occidental qui est de plus en plus, ne voulant pas laisser entre guillemets la première place ou sa place dominante, de plus en plus met des bâtons dans les roues pour le développement souverain des différents États de par le monde. C'est une nouvelle positive et il faut s'en féliciter.
Une autre question que j'ai envie de poser, c'est que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas forcément des pays qui souhaitent rejeter le format occidental des organisations internationales, parce qu'on voit quand même l'Arabie Saoudite et d'autres pays autres que l'Algérie, bien que l'Algérie n'a jamais eu de mauvaises relations avec les États-Unis ou même l'Europe. On voit donc des pays comme l'Arabie Saoudite ou même l'Égypte s'y intéresser de près, de faire une demande d'adhésion. Comment vous expliquez ça également, étant donné que ce sont quand même des pays qui ne sont pas perdants face aux pays occidentaux?
Si, ils le sont en réalité, parce que la protection américaine, c'est un coup, c'est la vassalité. Et on sait très bien que les États-Unis et leurs alliés, c'est... vous êtes rapidement, on va dire, jeté lorsqu'il n'y a plus d'intérêt pour les Américains. Ce n'est pas un désaccord entre gentlemen. Bien que le terme soit anglo-saxon, c'est tout à fait le contraire du comportement des anglo-saxons d'ailleurs.
Vous faites référence à l'OPEP+.
Ce sont des pays tout à fait différents, et ces pays tout à fait différents, et qui ont dans d'autres domaines peut-être même s'opposent, mais au moins ont l'intelligence de comprendre qu'ils ont des intérêts en commun. Et surtout, le fait que dans les BRICS, vous avez essentiellement... Donc les pays fondateurs, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, mais c'est surtout en réalité dans le bloc aujourd'hui, le bloc eurasien, vous avez la Chine et la Russie qui est aujourd'hui, la Chine qui est en second plan pour l'instant, mais qui va arriver en premier plan de la politique agressive américaine, et la Russie qui est sur le premier plan aujourd'hui avec la guerre américaine en Ukraine contre la Russie, vous avez une reconnaissance de ce monde qui change, et ce qui se passe depuis, en réalité depuis plusieurs années, ça s'est passé en 2014 avec... en Ukraine, en fait, tout commence en Ukraine où la Russie a refusé cette fois-ci de se laisser marcher sur les pieds avec ce qui s'est passé en Crimée, et puis après l'intervention en Syrie. Aujourd'hui, l'intervention russe en Ukraine depuis le 24 février de cette année, cela démontre que de toute façon, en me faisant le plus neutre possible, quelle que soit le déroulement de la situation en Ukraine, cela marque un point de non-retour, c'est-à-dire aujourd'hui la constatation que le monde d'hier n'existe plus et que un autre monde est en construction. La tectonique des plaques géopolitiques est en mouvement, et un grand mouvement, puisqu'il ne s'agit pas, ce que je disais auparavant, simplement de la fin de Yalta, mais en réalité la fin de la domination occidentale sur à peu près 5 siècles. Les États-Unis s'en rendent compte, ce pourquoi ils se sont dégagés de plusieurs endroits pour se concentrer sur ces principales colonies qui sont les pays de l'Union européenne. Et d'ailleurs, ils les vampirisent. Hein, ils vampirisent non seulement les ressources financières, les ressources industrielles à l'heure actuelle, et également les matières premières. Les matières premières, je vais dire, intellectuelles. Et vous avez aujourd'hui cette situation où on voit bien, il n'y a que l'Europe qui pense encore, qui croit encore qu'elle peut donner des leçons, ou qu'elle peut exiger que le monde se mette sur ses exigences. On le voit bien avec le soi-disant plafonnement qu'ils voulaient faire sur le prix du pétrole russe. Et aujourd'hui, même l'Union européenne a dit « non, finalement, on ne peut pas le faire ». Oui, ça s'appelle le mécanisme de marché, et que le reste du monde n'écoute pas ce que dit la Commission européenne. Ce n'est pas elle qui décide des prix dans le monde sur l'énergie. Et donc, vous avez une reconnaissance de par le monde que l'équilibre commence à changer, et que mieux vaut être dès le départ dans le train qui part vers cette reconstitution, puisque lorsque vous êtes dans les premiers, vous êtes mieux positionné, allons-nous dire, dans cette recomposition du monde. Et c'est pourquoi on voit des pays qui pourtant opposés, vous avez même l'Inde et la Chine qui s'aiment pas trop tant que ça en réalité, de par rapport à une certaine rivalité, s'entendent très bien sur cette redéfinition du monde. Alors je ne dis pas que
le monde de demain, excusez-moi de vous interrompre,
et quand est-ce qu'on va y arriver.
Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Fabrice Boer. Vous avez raison, la Chine et l'Inde sont souvent en désaccord. Notamment, il y a eu la dernière pic de tension avec le Tibet, qui représentait une énorme quantité d'eau. Pour venir à notre deuxième invité, monsieur Luc Michel. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous avez entendu ce que notre invité nous a dit? Qu'en pensez-vous? Les pays, énormément de pays commencent réellement à s'intéresser de manière extrêmement sérieuse aux BRICS, réclament une adhésion aux BRICS, des pays qu'on parle pro-résistants, des pays neutres, des pays beaucoup moins neutres qui sont plus pro-occidentales, mais qui recherchent cette adhésion aux BRICS. Qu'en pensez-vous, monsieur Luc Michel? Et ravi de vous avoir sur le plateau.
Oui, madame, je vous écoute, je suis en ligne depuis 20 minutes.
Ravi de vous avoir sur le plateau.
Le monde est en train de se structurer sur la base de deux blocs antagonistes. Il y avait le volet géopolitique et militaire, c'est-à-dire l'OTAN contre l'organisation de conversion de Shanghai. Il y a maintenant les volets économiques parallèles qui se mettent en place. Le G7 devient de plus en plus l'équivalent économique occidental de l'OTAN. Et les BRICS, qui ne représentaient pas une unité géopolitique avant le 24 février, puisque notamment l'Inde, le Pakistan étaient penchés du côté occidental militairement. Aujourd'hui, les BRICS sont en train de se constituer en pendant économique de l'OCS. C'est normal que l'Algérie adhère aux BRICS, puisqu'elle était déjà la principale alliée de la Russie en Méditerranée occidentale. Il y a l'État central de l'OPEP du gaz, l'association des États producteurs de gaz avec l'Iran et avec la Russie. Aujourd'hui, l'Algérie qui rejoint les BRICS, le Brésil qui est en train de se distancer de l'Occident et du Nord pour rejoindre le Sud, et l'adhésion de l'Iran, cela signifie que les BRICS deviennent une unité géoéconomique, ce que la Chine et la Russie ont toujours voulu. C'est donc un élément capital. Il faudra noter encore que le pas décisif a été entamé par Vladimir Poutine, puisque son objectif le 24 février, c'était de mettre un terme à l'ordre occidental Il y avait un terme à l'économie globalisée médiée du État et qui est en train de réussir. Il faut également retenir une dernière chose, évidemment, c'est que le monde unipolaire à domination occidentale est en train de s'effondrer comme le monde de l'émergence de l'OCS et des BRICS.
Merci, M. Luc Michel. Pour revenir à ce que M. Fabrice Boer a dit, concernant, donc, on ne peut pas parler du BRICS sans parler de ce qui se passe en Ukraine, puisque l'Ukraine est le pôle, et on va dire le tournant dans l'histoire qui fait que le BRICS va devenir de plus en plus important au niveau international. Quand vous avez dit ça, M. Fabrice Boer, est-ce que vous avez mentionné, vous pensez également à ce qui s'est passé à Kherson en Ukraine ces derniers temps, où la Russie s'est retirée? Est-ce que ça veut dire que la Russie va s'intéresser plus d'un point de vue, va plus répondre d'un point de vue économique et diplomatique à la situation ukrainienne?
Je parle ça, c'est la deuxième phase. On est toujours dans la phase militaire. Actuellement, on est toujours dans la phase militaire. Ce n'est pas un retrait de Kherson, c'est de Kherson précisément. C'est vraiment très, très rapidement. L'objectif de la Russie a toujours été de démilitariser la junte de Kiev et de prendre sous protection les russophones d'Ukraine qui sont des sous-citoyens en réalité dans la junte de Kiev. Et non pas de s'en servir comme bouclier. C'est pourquoi depuis plusieurs semaines il y avait une évacuation. Et se retirer, mieux vaut se retirer en conservant ses forces militaires et en ayant protégé les civils que de faire comme ont fait les Ukrainiens à Mariupol où la situation a été perdue de des dizaines de milliers de soldats, les meilleurs qu'ils avaient d'ailleurs à l'époque, de détruire totalement une ville et de tuer aussi des dizaines de milliers de civils. Donc l'approche est tout à fait différente. Si les Russes ont fait des erreurs au tout début, et ils sont en train de les rectifier et ils sont en train de former. Ils n'envoient pas des soldats formés en 15 jours sur le front, ce n'est pas vrai. Ils prennent le temps pour réagir après et reculer, ça ne veut pas dire abandonner. Et ce n'est pas le cas puisque Kherson, la ville, fait partie de la Fédération de Russie. Elle a été vidée de la population pour ces raisons que je vous ai indiquées. Ce n'est que partie remise. La Russie voit long, même si ce conflit dure encore un an ou même deux ans, il n'y a aucun souci. La Russie est prête à faire ce sacrifice pour la simple et bonne raison que c'est dans un contexte plus global. Alors évidemment, après la résolution du conflit militaire, il y aura une résolution diplomatique, mais l'économie est déjà en cours. On est en train déjà de construire dans les zones libérées, en particulier dans le Donbass, on est en train de refaire les routes. On est en train de rétablir les hôpitaux. On est en train de construire de nouveaux logements, comme à Mariupol. Tout va de pair en réalité. La Russie ne perd pas du tout son temps en réalité. Il y a plusieurs étapes, mais il n'empêche qu'en arrière-plan de l'opération militaire, il y a déjà la reconstruction civile. Plusieurs déjà milliers de logements ont été livrés à Mariupol. Et quand je vous dis qu'ils ont été livrés, c'est-à-dire qu'ils ont été donnés, ils ne sont pas vendus à la population. Tout cela sous la direction du ministère de la Défense. Donc vous avez une considération plus globale en sachant que les régions en question qui sont libérées et les autres parties qui vont être libérées sont les régions en réalité les plus riches d'Ukraine, celles qui finançaient d'ailleurs le reste des pays, en particulier l'Ouest qui est totalement désindustrialisé, d'où viennent la plupart de ces militants ukro-nazis qui considèrent les russophones comme des sous-hommes, il faut parler très clairement. Donc la Russie évidemment avec ses nouvelles populations et ses nouvelles zones agricoles et industrielles, mais agricoles aussi, a une vision d'intégration dans son économie. Et l'économie russe aujourd'hui, puisqu'elle est rejetée d'une manière suicidaire par les pays de l'Union européenne, se redirige vers d'autres économies dans le cadre bloc eurasiatique et dans le cadre des BRICS. Et en cela, évidemment, il y aura des périodes encore de troubles et de difficultés, mais le temps de retrouver un nouvel équilibre, et ce nouvel équilibre sera profitable non seulement aux pays des BRICS, et dans le cas précis également à la Russie, je n'en dis pas autant des pays de l'Union européenne qui en fait se sacrifient pour les intérêts des États-Unis, mais pour l'ancienne Ukraine, bien évidemment, il y a déjà une intégration économique, et lorsque le conflit sera arrêté, tout le potentiel de ces régions pourra être utilisé au bénéfice de la Russie et au bénéfice surtout des populations qui jusqu'à présent servaient plus de main-d'œuvre, on va dire de cash machine pour la junte de Kiev et toutes les dépenses de ces oligarques qui n'avaient qu'une seule obsession, c'était de piller le pays jusqu'au dernier copec.
Merci, Monsieur Weber. Monsieur Luc Michel, vous-même, que pensez-vous donc de l'avenir du BRICS? Quelles vont être les prochaines étapes du BRICS en matière d'influence internationale, selon vous?
Écoutez, les BRICS vont donc se structurer en contrepoids à l'organisation de coopération, à l'organisation du G7, qui est l'équivalent occidental de l'OTAN dans le domaine économique. Mais il faut également souligner quelque chose, évidemment, c'est que parallèlement aux BRICS, il y a ce qu'on appelle le G20. Le G20 qui correspond actuellement aux États non alignés diplomatiquement et qui va subir l'influence des BRICS. Les BRICS doivent être un aiguillon pour écarter le G20 du bloc occidental. C'est donc un élément décisif des partisans du multipolarisme. Il faut souligner que le rapport de force actuellement, c'est que l'Occident représente environ 18% de la population mondiale. Les États-Unis, l'Union européenne, l'Australie, le Japon et la Corée du Sud. Sorti de cela, le reste du monde suit l'Iran, la Russie et la Chine. 82% de la population mondiale est derrière Moscou. La propagande de guerre de l'OTAN prétend que Moscou serait isolé militairement et diplomatiquement. C'est totalement faux, évidemment. Moscou va de succès en succès. Et l'ancien ambassadeur de France, Sylvie Verman à Moscou, reconnaît elle-même que 82% de la population mondiale se situe derrière la Russie. C'est cela que symbolise aujourd'hui la réorientation des BRICS, l'augmentation des BRICS à l'Iran et à l'Algérie, et évidemment que des membres des BRICS qui étaient alignés militairement sur l'Occident, comme l'Inde et le Brésil, sont en train de s'allier militairement sur la Chine et la Russie. Le plus grand événement, évidemment, c'est le Pakistan. Le Pakistan qui était depuis la première guerre d'Afghanistan le principal allié militaire des États-Unis, aujourd'hui se tourne militairement vers la Chine et vers Moscou. Ils organisent des contacts militaires et des manœuvres en combat. Les États-Unis ont perdu le Pakistan. Ils ont quitté l'Afghanistan. C'est donc évidemment le vieux monde qui s'effondre.
Vous avez raison en matière d'exercice militaire pour les Russes. Deux exercices militaires rien que pour le mois de novembre sont prévus entre l'Algérie et la Chine et l'Iran. Pour conclure, que pensez-vous pour conclure sur le sujet des BRICS? Donc, les BRICS, selon vous, représentent le symbole du multipolarisme du monde?
Écoutez, ça représente le succès de Vladimir Poutine dans l'opération spéciale en Ukraine. Un but qui était, si vous voulez, un but militaire, qui était la reprise et la protection des populations russophones du Donbass. Mais il avait deux objectifs. Le premier, c'était de mettre un terme au nouvel ordre mondial américain, proclamé en 1990 à la chute de l'Union soviétique. Le second, c'était de mettre un terme à l'économie globalisée autour de l'économie néocoloniale de l'Amérique du Nord. Il a donc réussi totalement dans ses buts de guerre. Et les BRICS aujourd'hui qui sont en train de se redéployer et qui sont enfin une unité géopolitique-économique anti-occidentale représentent la victoire de Vladimir Poutine dans le domaine économique. La domination mondiale économique de l'Occident, elle est terminée. L'histoire retiendra que les Américains, par leur politique des sanctions et la guerre économique contre la Russie, ont sapé eux-mêmes les fondements économiques de l'Europe mondiale économique.
Merci Monsieur Luc Michel. Merci à notre deuxième invité, Monsieur Fabrice Weber, pour votre participation à ce débat. C'est là que se finit notre temps du débat. Je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que ces informations vont vous aider à avoir une opinion. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau sujet du débat à partir des studios de Téhéran.
l'Iran et son 7e art. Le cinéma de la défense sacrée. Première partie. Le cinéma de guerre iranien désigne les films et documentaires traitant de la guerre imposée par l'Irak du dictateur Saddam Hussein à l'Iran, ayant duré de septembre 1980 à août 1988. La production des films de ce genre commença peu après le début de la guerre et gagna rapidement une popularité parmi les Iraniens. La plupart des films produits au début de la guerre avaient pour objectif de contribuer à l'effort de guerre en mobilisant les esprits. Dès lors, les thèmes étaient dans leur majorité assez semblables. Un groupe de l'armée iranienne arrivait à pénétrer sur le territoire ennemi, détruisait ses équipements et retournait au pays avec de faibles pertes. À l'époque, ces thèmes étaient très appréciés étant donné le contexte historique, mais les personnages manquaient de profondeur. Dans cette lignée, citons « Les aigles » réalisé en 1984 par Samuel Khachikian, « La base infernale »,« Les résidents du purgatoire » ou encore « Le passage ». Après les premières années de la guerre, cette vision changea et de nouveaux réalisateurs abordèrent le film de guerre avec une approche moins superficielle et plus axée sur l'individu. Certains films comme « La contrée des amoureux »,« Vol de nuit »,« Sentinelle » et « Le migrant » met en scène les réalités de la guerre, la bravoure et le sacrifice des combattants iraniens et aborde l'aspect spirituel de la défense sacrée. À la fin de la guerre, les réalisateurs de ce type de films ont pris plus de liberté pour aborder certaines réalités, situations, échecs et victoires, permettant une évolution du cinéma de guerre iranien qui se rapprocha alors de ce qui devint un peu plus tard le genre du cinéma de la défense sacrée. Il faut préciser que le genre du cinéma de la défense sacrée est une branche indépendante du film de guerre iranien, avec une structure et des particularités distinctes du genre du film de guerre que le cinéma de la défense sacrée rejette d'ailleurs en partie. Le cinéma de la défense sacrée est exclusivement consacré à la guerre imposée à l'Iran par l'Irak. L'existence des symboles et des signes d'identité nationaux et religieux dans ce genre est beaucoup plus soulignée que dans d'autres genres du cinéma de l'Iran. Les particularités de la guerre, en particulier d'une guerre défensive, exigeant la défense et la protection du pays et impliquant tous les aspects de la vie des citoyens, ont guidé les artistes et les réalisateurs dans leur approche. Précisons les aspects majeurs qui distinguent le film de guerre de celui de la défense sacrée. Dans ce dernier genre, des motifs comme le djihad, le sacrifice, le martyr, la défense de la patrie, comme cheminement personnel et mystique, sont abordés. Dans ce genre cinématographique, les protagonistes ne défendent pas simplement leur terre ou leurs biens. Ils ne tuent pas pour ne pas être tués, ni parce que les circonstances l'exigent, mais pour des raisons spirituelles qui rendent cette résistance sacrée. Ce genre cinématographique n'est pas né de la propagande de guerre, mais bien de la vision de la vaste majorité des Iraniens durant la guerre qui avaient compris la nécessité du sacrifice pour protéger le pays et qui n'a pas hésité à répondre à l'appel, notamment pour des raisons religieuses. La sacralité de cette défense apparaît également dans la notion de tuer et d'être tué. Dans ce genre cinématographique, les personnages ne se vengent pas et ne meurent pas avec regret. Car ils voient non pas la mort, mais le martyr, qui est la vie éternelle. Encore une fois, cette vision des réalisateurs du cinéma de la défense sacrée prend racine dans la vision générale de nombreux combattants iraniens pendant la guerre. Cette particularité, entre autres, fait de ce cinéma un genre national et propre à l'Iran. C'est aussi cette vision qui fait de ce cinéma un cinéma beaucoup moins désespéré et pessimiste que le film de guerre en général. Murtaza Avini est l'un des précurseurs du courant mystique, chevaleresque et pacifiste qui sous-tend le genre de la défense sacrée et qui est apparu dès les débuts de la guerre. Ses idées sont notamment développées dans des documentaires sublimes, comme la série « Récit de la victoire » qui, pendant plusieurs années, a donné une image concrète de la vie des combattants au front et de l'ambiance de cette guerre du côté iranien. Avec une perspective différente sur le sujet de la guerre, sa présence et son implication en tant qu'artiste aux côtés des combattants qu'il a filmés, Avini a fondé une nouvelle forme dans le genre du film de guerre. Le travail des réalisateurs appartenant au courant dont il est le principal fondateur a joué un rôle marquant dans l'identité indépendante et propre du genre filmique de la défense sacrée. Dans ses grandes lignes, le genre de guerre dans le cinéma iranien est basé sur deux thèmes. L'exposition des scènes épiques et la bravoure des combattants iraniens, souligner l'importance de la vie face à toute idéologie mortifère et refuser la tuerie des êtres humains, quel que soit le prétexte. Le cinéma de la défense sacrée est d'abord un cinéma documentaire, enraciné dans les mémoires, les notes, les rapports, les autobiographies, les récits et l'histoire officielle iranienne. Ce cinéma met en scène l'opposition entre les deux pouvoirs iraniens et irakiens, traite des sujets comme le martyr, les blessures, la captivité, le dévouement, le renoncement et enfin propose des réflexions sur les retombées affectives, socioculturelles et spirituelles de la guerre. Les scénarios, les pièces théâtrales et les séries télévisées constituent le noyau de la production artistique dramatique de guerre. Au début, ces auteurs se consacraient plutôt à la description de la résistance courageuse en insistant sur la cruauté de l'ennemi et les victoires sur le front. Néanmoins, au fur et à mesure, des thèmes plus généraux, comme les problèmes affectifs et psychologiques, les différents points de vue de la génération de la guerre et de celle d'après-guerre, l'étude des comportements des combattants, les réactions de la population vis-à-vis de la guerre, les souffrances des combattants, des prisonniers et de leurs familles, bref, l'ensemble des réalités de la guerre se sont introduits dans ces tas. Chers amis auditeurs, merci de votre écoute. La prochaine fois, nous poursuivrons cette étude. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine.
N'hésitez pas à suivre nos émissions sur notre site http://parstoday.com/fr. Pars Today est actif essentiellement sur la toile et les réseaux sociaux, mais il diffuse son contenu en ondes courtes ou encore via des applications mobiles. Les toutes dernières évolutions politiques au Moyen-Orient, le rôle axial qui joue l'Iran en qualité d'une puissance régionale et pays à la fois sûr et prospère sont largement traités à travers les articles et les émissions présentes sur le site Pars Today, ce qui en amplifie l'importance dans la sphère médiatique régionale. Le service français de Pars Today utilise divers médias pour présenter ses productions politiques, culturelles et religieuses. Son objectif n'est que de permettre aux internautes de voir plus clair dans un monde où les médias mainstream manipulent l'opinion. Les locuteurs français pourront suivre l'actualité iranienne, moyen-orientale et africaine et francophone sur Pars Today à l'adresse suivante http://parstoday.com/fr.